C'est le jour de la rentrée en 1622 à Leiden, aux Pays-Bas. La plus ancienne université du pays, fondée par Guillaume d'Orange 50 ans plus tôt, accueille chaque année plusieurs dizaines d'étudiants venus de toute l'Europe. L'un d'eux est fils de meunier et c'est sa troisième année à l'université. Il connaît bien désormais ce bâtiment de taille modeste qui comporte quelques salles de classe, un jardin botanique avec une serre tropicale et même un théâtre anatomique où sont pratiquées les dissections. Dans les couloirs étroits de l'université, le jeune homme de seulement 16 ans et ses camarades côtoient des savants, des philosophes, des spécialistes des langues, mais aussi des éditeurs qui publient les idées les plus novatrices en Europe en ce début du XVIIe siècle. Ils bénéficient également d'avantages en dehors de l'université. Ils ont des tarifs réduits sur la bière et sur les Trexreuten, des bateaux à horaires réguliers qui desservent tout le pays. En ce jour de rentrée, le fils de meunier se penche sur le registre d'inscription de cette année 1622. Il y inscrit son nom. Rembrandt van Rijn. Sans doute ne sait-il pas encore qu'il deviendra un des plus grands peintres de l'histoire. Vous écoutez La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut national d'histoire de l'art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs partagent avec moi leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions et parfois leurs doutes sur les sujets qui les passionnent.
Il y a deux registres où son nom apparaît. Le premier, en 1620, il est connu depuis assez longtemps. Comme c'était la seule fois où son nom apparaissait, beaucoup d'historiennes de l'art ou d'historiens de l'art, et à juste titre, en un certain sens, ont quand même douté de la possibilité d'un séjour véritable de Rembrandt. On s'est dit, c'était un one-shot, son nom est apparu, les parents de Rembrandt ont tenté, et puis quelques mois plus tard, il a lâché l'affaire, et puis il leur a dit, moi je veux faire peintre. Bon. Depuis 2019, des collègues néerlandais, dans un petit livre, ont publié une seconde occurrence du nom de Rembrandt sur le registre d'immatriculation en 1622. C'est un tout petit livre, c'est fin comme ça. Et alors là, ça change tout, parce qu'à partir du moment où Rembrandt est inscrit en 1622, les registres de 1621 ont été perdus. Ça veut dire qu'il y avait au moins 3 ans de séjour à l'université. Ça veut donc dire que c'est après 22, au plus tôt, qu'il commence sa formation d'artiste auprès de Van Swanenburg à Leiden.
Yann Blanc est professeur d'histoire de l'art moderne à l'université de Lausanne. Il est aussi un auteur prolifique de livres sur l'histoire de l'art. Son dernier en date, sobrement intitulé Rembrandt, revient sur la vie du plus célèbre des peintres néerlandais, et en particulier sur sa jeunesse, grâce à la découverte récente de son inscription à l'université.
C'est un élément qui m'a permis de donner à l'enfance de Rembrandt une vraie place dans la réflexion, et pas simplement une sorte de place de prologue. Souvent, l'enfance de Rembrandt, c'est dans l'introduction avant de se consacrer au début de sa carrière. Et pour moi, c'est une partie dans laquelle j'essaie de réfléchir à la façon dont l'originalité de Rembrandt se construit avant même qu'il devienne artiste. Pendant, je dirais presque des siècles, on a fait de Rembrandt une sorte de peintre du peuple, un peintre proche des mendiants qu'il représentait, une sorte de peintre un peu instinctif comme ça, qui avait plus de savoir-faire que de savoir, une sorte d'antithèse de Nicolas Poussin, on peut dire. Il y a le peintre philosophe d'un côté, puis il y a ce peintre artisan, pas très beau, qui se représente avec une blouse de peintre peu tachée, comme ça, dans la pénombre, etc. Bon, cette mythologie qui va être réactivée au XIXe siècle par les avant-gardes qui vont faire la figure du peintre bohème, etc. Savoir que Rembrandt était inscrit à l'université, l'un des seuls au XVIIe siècle. Poussin n'est pas allé à l'université, par exemple. C'est intéressant. Ça fait de Rembrandt un peintre dont on peut se poser la question de savoir s'il n'est pas un érudit, tout simplement. Si son savoir n'est pas un peu caché derrière des apparences de simplicité.
Yann Blanc réalise toute la puissance de Rembrandt lors d'une visite au musée du Louvre en 2008. Cette année-là, l'artiste contemporain Yann Fabre réalise des installations monumentales, censées dialoguer avec les œuvres des collections hollandaises et flamandes. Et en particulier, avec une toile de Rembrandt intitulée « Le bœuf écorché ».
Il avait fait une installation dans cette salle, pas une très grande salle d'ailleurs, une installation assez spectaculaire. Le bœuf écorché, il écrasait complètement Yann Fabre. Le tableau était plus petit que l'œuvre que Fabre avait installée. Et là, c'était vraiment intéressant, parce que je me suis rendu compte, effectivement, de la puissance de Rembrandt comparativement à l'œuvre d'un artiste contemporain comme Yann Fabre, dont les œuvres ne tenaient pas le choc face à Rembrandt. Elles étaient ridiculisées pratiquement par le tableau. Et plus tard, j'ai découvert que c'était une impression qui était aussi celle de certains spectateurs plus anciens. Il y a notamment un peintre sur lequel j'ai travaillé aussi, qui s'appelle Joshua Reynolds, qui va publier de nombreux écrits. Pendant un voyage aux Pays-Bas, il voit le bœuf écorché dans une collection, donc dans une situation assez similaire à celle qu'on peut trouver dans un musée, c'est-à-dire une œuvre parmi d'autres. Il regarde le tableau, il dit « bon, ça représente une boutique de boucher, le sujet n'a pas d'intérêt en soi ». Mais il dit « avec la couleur, it kills everything ». Ça tue n'importe quel tableau.
Yann Blanc est étudiant en licence d'histoire de l'art à la faculté de Nanterre quand il découvre les travaux de Samuel von Hoogstraten, un ancien élève de Rembrandt et un des seuls théoriciens de l'art au début du XVIIe siècle aux Pays-Bas.
À la toute fin de sa vie, quelques mois avant de mourir, il va publier un livre, un gros traité de peinture de 400 pages, où il consacre d'ailleurs plusieurs pages à son passage chez Rembrandt. Il raconte des discussions entre le maître et ses élèves. Il explique certains de ses tableaux. Donc c'est un texte fabuleux parce que ça permet un peu d'entrer dans la pensée de l'artiste. J'étais plutôt parti vers l'art contemporain. J'aimais beaucoup l'art abstrait, j'aimais beaucoup Mondrian, j'aimais beaucoup Bardet Newman. C'est l'art un peu très simplifié, très épuré comme ça. Je trouvais que c'était fascinant de comprendre comment c'était fait. Il y avait une forme de beauté, mais une beauté un peu étrange comme ça. Puis en fait, c'est un séminaire sur le paysage que j'ai suivi à l'Université de Nanterre.
Yann Blanc doit préparer un exposé sur la vue de Delft, de Vermeer. Quand il tombe sur ce traité intitulé « Introduction à la haute école de l'art de la peinture ».
Samuel von Hoogstraten, c'est un nom qui est revenu, parce qu'il y a quelques pages sur le paysage, etc. Et en regardant ce traité, je me suis dit « Tiens, c'est intéressant ce qu'il dit. Tiens, c'est en néerlandais. Est-ce que je pourrais voir si j'arrive à apprendre cette langue ? Tiens, ça n'a jamais été traduit. » Donc j'ai proposé une traduction complète qui a été publiée à la librairie Drault à Genève. Donc c'était une manière aussi pour moi d'entrer dans ce type de ce qu'on appelle la littérature artistique, c'est-à-dire l'ensemble des textes qui sont écrits sur l'art. Ça, c'est merveilleusement intéressant aussi. Pour moi, le passé, c'est une altérité. Et c'est fascinant. C'est à peu près aussi fascinant que de voyager et de découvrir une culture qu'on ne connaît pas, on ne comprend rien, on voit des gens qui n'ont pas les mêmes corps que nous, qui n'ont pas les mêmes vêtements que nous, qui ne regardent pas de la même manière, qui ne marchent pas de la même manière, qui ne créent pas de la même manière, qui n'écrivent pas de la même manière. Mais c'est ça, en fait, le passé pour moi. Par exemple, on a des lettres de Rembrandt. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. C'est comme émouvant de voir des lettres de Rembrandt avec sa signature, avec son écriture, assez caractéristique d'ailleurs. Il parle essentiellement d'argent et de délai. C'est à peu près la seule chose qui l'intéresse. Il y a deux lettres qui parlent de sa peinture. C'est un peu un margoulin aussi. Hein. Il explique que tel tableau doit être mis assez loin du spectateur parce que sinon, le spectateur va être empoisonné par les vapeurs de la peinture. Alors qu'en fait, c'est juste parce que son tableau fonctionne mieux à certaines distances. Donc, les textes de Rembrandt, les textes des contemporains de Rembrandt, ça nous offre la possibilité d'une conversation à distance.
Quelle est la part de création et d'imagination quand vous écrivez comme ça sur un peintre mort il y a plusieurs siècles ?
Ça, c'est vraiment une vision personnelle de la discipline. Faire un travail qui consisterait uniquement à amasser des documents, à les organiser, même de façon rigoureuse, même de façon subtile, ça ne suffit pas pour moi à faire un historien ou une historienne de l'art. C'est le début du travail, c'est pas la fin. Au final, l'histoire de l'art, c'est pas juste une histoire archivistique. C'est aussi un récit, c'est une mise en récit de documents, de faits, d'informations qu'on va construire, qu'on va organiser pour donner du sens. Pour moi, là, dans ce domaine, l'un des grands modèles, c'est Daniel Arras.
Daniel Arras est un historien de l'art français, décédé en 2003, particulièrement connu pour ses ouvrages accessibles au plus grand nombre.
C'est-à-dire qu'il avait à la fois une connaissance extrêmement fine des œuvres, une culture visuelle phénoménale, et en même temps qui était capable de sortir totalement des œuvres que tout le monde avait l'impression d'avoir vues mille fois, des propositions interprétatives hyper séduisantes, pas toujours convaincantes, mais en tout cas tellement innovantes qu'elles étaient séduisantes pour cette raison même. Après, il faut aussi être conscient du fait qu'on ne détient pas la vérité, on n'a pas la science infuse. Il faut laisser libre cours à la critique. Ça, c'est un élément très important. Et c'est aussi la raison pour laquelle, je le précise, les auditrices et auditeurs pourront se dire « Mais pourquoi toutes ces notes de bas de page, ces bibliographies, ces références, ces index, etc. ?» Ben, c'est pour que vous puissiez vérifier.
Il est d'autant plus aisé de vérifier les sources autour de Rembrandt qu'elles ont été numérisées. Pour ses recherches sur son dernier ouvrage, Yann Blanc n'a donc pas eu à manipuler le moindre papier. Tout, ou presque, se trouvait sur le site du Rembrandt Documents Project.
Pour le XVIIe, le XVIIIe siècle, c'est un moment vraiment où on a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a tellement de choses d'ailleurs qu'on ne sait pas encore tout ce qu'on a véritablement. Titre de propriété, titre de cession d'héritage, dernière volonté. Quand on prête de l'argent à l'époque, on le signifie chez un notaire, donc on a des traces aussi de ces différents éléments. Donc les archives néerlandaises sont très riches pour ce qui concerne ces éléments-là. Donc on peut assez facilement reconstituer les conditions matérielles de vie, une sorte de portrait robot de la famille, qui concerne d'ailleurs pas simplement Rembrandt lui-même, mais ses frères et sœurs, ses parents, ses grands-parents, etc. Brasseur, meunier, c'est vraiment le métier de la famille, hein, le métier du blé. C'est un métier difficile, mais c'est un métier valorisé. Et on voit bien que la famille de Rembrandt n'était pas une famille pauvre. Ça, il faut vraiment sortir de cette idée fabriquée au 19e d'un Rembrandt qui a vécu parmi les gens du peuple et qui est mort dans la ruine. Tout ça, c'est totalement faux. Son problème, c'est qu'il avait des poches percées. Il ne cessait d'utiliser l'argent qu'il gagnait pour acheter des tableaux, des œuvres, des estampes ou l'investir. Et donc, il était toujours submergé de crédit. Mais il a toujours gagné énormément d'argent jusqu'à la fin de ses jours.
Un peu comme il dresse le portrait robot de la famille Van Rijn, Yann Blanc essaye de reconstituer les idées qui devaient circuler à l'université de Leiden quand Rembrandt la fréquentait. Il ne subsiste pas d'emploi du temps des élèves ou de liste des cours obligatoires. Mais en croisant plusieurs sources de l'époque, il parvient à reconstituer une liste de professeurs. Et parmi eux, un nom l'intrigue particulièrement, celui de Daniel Heinsius. Un théoricien littéraire célèbre dans toute l'Europe pour sa traduction et son interprétation de la poétique d'Aristote. Il développe notamment l'idée de la catharsis, selon laquelle un spectacle qui suscite des émotions fortes permet de catalyser les mauvaises passions chez le spectateur.
Et on sait que dès le départ, Rembrandt a accordé une place vraiment très très importante dans ses peintures d'histoire à l'expression de passions exacerbées. Vraiment cette idée de passion très puissante, très fortement valorisée, très fortement marquée, fondée sur la nature, avec cette idée qu'une peinture d'histoire, ça doit produire un effet très puissant sur le spectateur, pour en fait que le tableau puisse instaurer une relation émotionnelle avec le spectateur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important chez Rembrandt. Et on a souvent pensé que c'était un peu une idée qu'il avait forgée par lui-même. Et puis, je pense qu'en réalité, le séjour à l'université a sans doute été un moment important dans cette conception d'un art de l'émotion. Par exemple, l'aveuglement de Samson. Samson est aveuglé, hein. On lui coupe les cheveux pour l'enlever la force, et puis ensuite on l'aveugle pour l'handicaper. C'est une scène où généralement on ne représente pas la scène elle-même, mais soit un peu avant, soit un peu après, c'est-à-dire la scène où il est enchaîné, ou bien la scène où il est en train d'être endormi sur le giron de Dalila. C'est le choix qui est fait par Rubens. C'est une scène assez classique, Rubens en réalise une version un peu plus tôt, qui a été gravée d'ailleurs, que Rembrandt connaissait peut-être. Et Rembrandt lui représente exactement le moment où le couteau s'enfonce dans l'œil, dans une grande giclée de sang. Ce qui, évidemment, produit un effet sur le spectateur qui est très impressionnant, d'autant que la figure de Samson se trouve au tout premier plan, basculant pratiquement dans l'espace du spectateur, comme s'il tombait dans notre espace, donc il nous est offert au regard, et on ne voit que cela, c'est-à-dire ce sang qui gicle de la blessure. Puis l'autre idée très importante, qui permet sans doute peut-être de réviser positivement le séjour que Rembrandt a fait à l'université, c'est les langues extra-européennes, les cultures extra-européennes. On sait que c'est un domaine où Leiden était très forte à l'époque. Et donc, il a pu avoir accès dès ses années à des enseignements, notamment de langues hébreu, copte, persane, arabe, sans les avoir apprises, évidemment, mais en étant sensibilisé à ces questions-là. Et ça permettrait, en fait, de comprendre pourquoi, dès les toutes premières œuvres qu'il peint dans les années 30, il intègre des inscriptions pseudo-hébraïques, notamment dans un fameux tableau qu'il peint au début de sa carrière qui s'appelle « Judas rendant les 30 deniers ». Il y a toute une série de petites inscriptions hein, qui ne sont pas parfaites, mais qui sont assez bien faites. Donc, qui montrent qu'il forcément, il a eu des conseils, parce que c'est des mots qui ont du sens. Et on a souvent dit qu'il a tissé des liens avec les Juifs à Amsterdam. En fait, ses tableaux sont antérieurs à son venue à Amsterdam. Donc en fait, comment il a pu connaître ces écritures? Probablement en circulant, en s'intéressant aux recherches qui étaient menées à l'université. Je ne voulais pas choisir entre faire des études de français, faire des études de philo, faire des études d'histoire, faire des études d'anthropologie, faire des études d'histoire des religions. La question de l'art, j'avais tout. Si on n'a jamais touché à la question de la perspective et qu'on commence à s'y intéresser, il va falloir faire des maths. Donc on apprend, on se forme. Si on veut travailler sur des enjeux de marché de l'art, il va falloir l'histoire économique. Donc il faut un peu s'informer sur l'économie. De pouvoir se dire qu'on peut apprendre quasiment toute sa vie au contact des objets et des problèmes qu'on étudie, c'est magnifique.
Depuis la traduction du traité de Samuel von Hoogstraten, Yann Blanc a signé une dizaine d'ouvrages, dont un en 2006 sur l'atelier de Rembrandt. Il faut néanmoins attendre 2017 pour qu'il signe sa première biographie complète. Il s'attaque alors à la vie mouvementée de Vincent van Gogh. En 2022, le même éditeur lui demande une nouvelle biographie, de Rembrandt cette fois-ci.
C'est une proposition de l'éditeur, que j'ai d'ailleurs refusée dans un premier temps, parce que je m'étais dit, si je dois écrire un livre sur Rembrandt, il me faut un angle. Donc, j'ai d'abord refusé, puis ensuite, j'ai quand même regardé un petit peu la bibliographie récente.
Yann Blanc finit par accepter d'écrire le livre quand, après des mois de recherche dans l'immense bibliographie dédiée à l'artiste, il identifie un angle qui lui semble encore peu exploré. Celui de l'originalité.
Le point de départ, c'est une expression utilisée par un poète néerlandais de la fin du XVIIe siècle, Andries Pels, qui dans un poème sur Rembrandt dit à un moment donné « Rembrandt a été le premier hérétique de l'art de peinture, de Erste Ketter in der Schilderkunst ». Ça a toujours été pour moi une source d'interrogation, cette expression, parce que dire de quelqu'un qui était hérétique au XVIIe siècle, c'est pas anodin. À ma connaissance, on brûlait plus les hérétiques, mais on a brûlé les hérétiques un siècle avant, encore à Amsterdam. Du coup, j'ai commencé un peu à travailler là-dessus. Alors, je me suis rendu compte que la notion est évidemment métaphorique, que ça voulait dire que c'est quelqu'un qui ne suit pas les règles. Bon. Mais j'ai remarqué que la notion gardait une charge très puissante au XVIIe siècle. Donc je me suis dit, mais de deux choses l'une, soit il était hérétique dans les yeux de ceux qui le regardaient. C'est parce que Andries Pels était un poète un peu classique, un peu attaché à des règles, qui fait qu'il ne pouvait pas supporter la façon dont Rembrandt représentait les corps. Et que donc, pourquoi il ne représentait pas des corps idéalisés, etc. Mais je me suis dit, mais ne pourrait-on pas aussi se poser la question de savoir si Rembrandt n'a pas voulu être hérétique ? Parce qu'il arrive qu'il y ait des hérésies volontaires, on n'est pas toujours l'hérétique de l'autre. Parfois, on défend des idées, on défend des opinions, on défend des valeurs qui sont les siennes. Ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que ce n'est pas un fait de réception, mais un fait de production. Qu'il y a une stratégie chez Rembrandt de se démarquer des autres. Il y a une stratégie systématique, véritablement.
Avec cette nouvelle approche selon laquelle Rembrandt aurait bâti son originalité, sa vie durant, Yann Blanc donne un nouvel éclairage à ses sources, qui datent pourtant de plusieurs siècles. Il redécouvre les textes, y compris le registre d'inscription à l'université. Il redécouvre aussi les œuvres du maître hollandais et en apporte une nouvelle analyse.
Il y a un autoportrait de Rembrandt que je trouve très intéressant, qui est aujourd'hui conservé à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Rembrandt regarde le spectateur de face, les mains sur les hanches, le regard légèrement levé, comme si le spectateur le dérangeait un tout petit peu, dans une position vraiment de domination. Je crois que c'est un autoportrait très intéressant, parce que d'abord, il est d'une économie de moyens fabuleux, c'est un camieux de brun, quasiment que des bruns. Et j'aurais pu commencer et ouvrir le livre à partir de cet autoportrait, parce que Rembrandt se représente et met en scène le spectateur comme un intrus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le spectateur n'appartient pas au même univers que le peintre, que le peintre s'en détache. Et là, il y a quand même un geste, une puissance considérable. Et lorsque Rembrandt dit à un de ses correspondants qu'il faut regarder les tableaux de loin parce que les pigments peuvent l'empoisonner, c'est aussi une manière de mettre à distance le tableau, mais aussi de mettre à distance le spectateur. Au début de sa carrière, il peint des tout petits tableaux, des tout petits formats, donc des tableaux qui sont faits pour être vus de près. Puis très très vite, il va vers des tableaux qui supposent une distance de plus en plus grande. Et cette distance-là, il ne faut pas la sous-évaluer. Je pense que c'est aussi une manière pour lui de prendre ses distances. vis-à-vis des spectateurs et d'imposer un monde dans lequel il est le centre de gravité, en quelque sorte.
D'après le chercheur, la volonté de distinction du peintre par rapport à ses contemporains se retrouve dans son choix de signer, non pas de son nom complet, Rembrandt van Rijn, ou RVR, comme il le fait à ses débuts, mais d'apposer sur ses toiles seulement son prénom, Rembrandt.
Moi, ce que j'avais lu jusqu'à présent, c'était l'idée, finalement, que c'était une manière pour lui d'entrer en émulation avec les grands maîtres, parce qu'il y a eu quelques grands maîtres italiens qui signaient par leur prénom, Raphaël, Titien, etc. Je pense que c'est vraiment une analyse pertinente. Mais disons que du point de vue qui est le mien, c'est la question d'interroger la singularité de l'artiste, évidemment, ça a un certain sens de le voir de cette façon effacer le nom de sa famille pour faire valoir son prénom. Personne ne s'appelle Rembrandt au XVIIe siècle. C'est un nom d'origine germanique qu'on donne très très peu. Ce n'est pas un Peter, ce n'est pas un Nicolas, c'est pas... Et donc le fait que les parents l'aient choisi, c'est aussi le signe d'une distinction au sens bourdieusien du terme. Ils ont voulu que leur enfant se distingue.
Et là encore, savoir que Rembrandt a fréquenté l'université de Leiden permet à Yann Blanc de renforcer sa thèse.
Choisir de mettre un de ses enfants, un de ses fils à l'école latine, c'est lui préparer un destin professionnel, inhabituel, puisqu'encore une fois, les autres fils sont plutôt allés vers le métier du père, reprendre l'affaire familiale. Donc à Rembrandt, ils ont voulu un autre destin. Moi, je défends l'idée dans le livre que Rembrandt est un transclasse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va, d'abord grâce à ses parents, puis grâce à lui-même, traverser toute une série de classes sociales et accéder à un niveau social qui ne lui était pas destiné originellement. D'une certaine façon, c'est une œuvre de Rembrandt, cela.
Après un an d'écriture de son livre, Yann Blanc se rend compte que la volonté de distinction du maître hollandais se retrouve même dans ses œuvres de commande. En particulier, un tableau destiné au quartier général des milices de quartier d'Amsterdam. Comme une dizaine d'autres peintres de la ville, Rembrandt doit faire le portrait d'une garnison de soldats et de ses deux capitaines. Cette commande deviendra son tableau le plus célèbre, la Ronde de nuit.
Vous savez, quand les photographies de mariage, quand tout le monde ne regarde pas l'objectif, ça c'est un enfer pour les photographes, parce que tout le monde regarde l'objectif au même moment. Donc il y avait toujours les photographies où il y a la petite nièce qui arrive, qui n'était pas prête, qui était... Voilà. C'est souvent des photographies ratées, mais ce sont des photographies vivantes. Et en fait, ce que fait Rembrandt, c'est de rendre vivant son portrait. Et donc, il décide de ne pas représenter des gens qui posent, mais des gens qui sont en train de se préparer à poser. Vous avez le capitaine et son lieutenant, qui font un geste, qui en fait c'est un geste de en avant-marche, donc c'est en fait un défilé qui est en train de se mettre en place. On voit que derrière, certains sont encore en train de tester leur fusil, que d'autres ne sont pas prêts, il y a certains qui sont en train de relever les étendards, etc. Samuel von Hochstraten, qui était dans l'atelier au moment où le tableau est réalisé et qui est finalisé en 1642, il écrit que ce tableau était tellement contrasté qu'il donnait l'impression que les autres tableaux étaient des cartes à jouer. Alors, évidemment, si on commence à dénouer les fils, on se rend compte qu'il y a des artistes avant lui qui ont commencé un peu ce travail de déformalisation. Le peintre qui a joué un rôle très important pour Rembrandt, et c'est d'ailleurs un peintre qui a joué un rôle beaucoup plus important pour Rembrandt que le Caravage, par exemple, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est Franz Hals. Franz Hals, dès le milieu des années 1610, il commence à représenter dans ses portraits des gens qui ne regardent pas le spectateur, qui semblent discuter les uns avec les autres, comme s'ils n'étaient pas conscients du fait qu'il y a un portrait. Bon. Et donc, on sait que Rembrandt va rencontrer Hals au début des années 30, lorsqu'il arrive à Amsterdam, et c'est certainement une rencontre très importante. Voilà, une question que j'aimerais bien lui poser. Qu'est-ce que tu penses de Franz Hals? Est-ce qu'il connaissait Vermeer? Est-ce qu'il connaissait... Qu'est-ce qu'il pense de Gérard Doux, qui était son premier élève? Ça aurait été très très bien que vous fassiez un podcast avec Rembrandt, mais voilà, ça va être compliqué.
Yann Blanc fera peut-être un livre un jour sur l'opinion que se faisait Rembrandt de ses contemporains. En attendant, il a lancé un nouveau sujet de recherche, non plus sur les Pays-Bas, mais sur la critique littéraire en France au XVIe et XVIIe siècle. On y retrouvera sans doute l'influence de Daniel Heinsius, qui a peut-être croisé le jeune Rembrandt en cette année universitaire 1622. Ce podcast est produit par l'Institut National d'Histoire de l'Art, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Merci pour votre écoute. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre des notes ou des étoiles et à le partager autour de vous. Merci beaucoup.